Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que nous venons de chanter, ce sont des paroles de l'apôtre Paul, qui, après avoir reçu plusieurs révélations dans sa vie, n'avait qu'un désir, celui de le connaître davantage. On vient de le chanter, c'est certainement ce à quoi nous devrions tous aspirer. Mais il n'empêche que peut-être nous n'avons pas cette grâce d'avoir déjà eu plusieurs révélations qui nous ont donné une assurance telle que nous ne pouvons que faire autrement de le découvrir davantage. Alors il faut commencer par le début. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, c'est une bonne église, l'église des Thessaloniciens. Et vous remarquerez ce que Paul leur dit. Alors on va le lire dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, c'est une introduction, c'est pas le sujet. Le sujet c'est autre chose. Mais regardez quand même avec moi dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 13. Paul parle à ses chrétiens. Tous les pasteurs voudraient être pasteurs à Thessalonique. 12, je pense. À l'époque. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Regardez cette église. Il faut lire comment Paul parle à ses chrétiens pour comprendre pourquoi ces chrétiens avaient fait d'énormes progrès. Mais regardez. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Trois fois, nous avons le mot « recevoir » dans ce verset. Les chrétiens de Thessalonique, quand ils écoutaient la parole de Dieu, ils la recevaient. Il y avait quelque chose qui se passait, ils n'écoutaient pas un sermon, un enseignement doctrinal, un enseignement théologique, ils l'expérimentaient. Et voilà ce qui a fait beaucoup de dégâts dans le royaume de Dieu, c'est que nous avons accepté la parole de Dieu, nous l'avons acceptée même joyeusement, sérieusement, mais nous ne l'avons pas suffisamment expérimentée. Et je pense à ce verset de Paul aux Corinthiens qui explique un petit peu comment ça marche, il leur dit « Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et c'est à chacun de nous que nous pouvons dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai reçu? Pas qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai appris par cœur, qu'est-ce que je connais, etc. Qu'est-ce que j'ai reçu? Parce que c'est certain que le dernier cantique que nous avons chanté, c'est un cantique où tous étaient bien, mais celui-là rappelle fortement le témoignage de l'apôtre Paul, qui veut vraiment, vraiment, pourtant on pense là qu'il a l'aspect de sa vie quand il dit ces choses, mais il veut le connaître encore mieux, encore plus. Alors, la question que je vous pose ce soir, c'est le début de cet embryon de vie de l'esprit que je vous ai donné depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que j'ai reçu? Vous allez me dire, moi je sais ça par cœur. Quelqu'un peut me dire, moi je connais la doctrine du baptême du Saint-Esprit par cœur. Est-ce que c'est bien de connaître la doctrine du Saint-Esprit par cœur? Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien. S'il y a une erreur quand même dans l'Église qui se manifeste, on peut la corriger. Si quelqu'un dit, hop, ça c'est pas biblique. Oui. Mais connaître la doctrine par cœur, c'est bien, mais il vaut mieux peut-être en connaître que les 10%, et ces 10%, les vivre vraiment. Alors on va partir d'un texte, parce qu'il faut partir du départ. Dieu savait qu'il viendrait ce soir, et j'aimerais que vous lisiez avec moi un texte qui n'a peut-être pas toujours été bien compris. Cet après-midi, en priant, je pensais à Paul et Pierre quand ils dénoncent les faux docteurs qui tordent les Écritures, vous savez, qui tordent le sens des Écritures. Et je me demande bien si dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, du verset 37 au verset 39, cet enseignement n'a pas été tordu. Dans nos cœurs, peut-être c'est nous qui l'avons tordu, à notre désavantage. Jean, chapitre 7, verset 37. Vous connaissez tout ce texte, c'est une des promesses extraordinaires. Qui ne souhaite pas que des fleuves d'eau vive coulent de son sein? Qui ne souhaite pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui franchement voudrait que de sa vie, des fleuves d'eau vive spirituelle s'échappent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait? Lucas, tu n'as pas levé la main, c'est quoi ces prières alors? Tu as levé la main ou tu n'as pas levé la main? Pour la deuxième question. Vous êtes d'accord? Je crois que tous les chrétiens convertis, nés de nouveau, soupirent après cela. Peut-être c'est une des raisons pour laquelle nous sommes venus ce soir, mis à part le fait de prier. Seigneur, je veux que des fleuves d'eau vive s'échappent de ma vie. Des fleuves, pas un filet d'eau tous les trois mois, des fleuves d'eau vive. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est presque trop grand pour la croire. Oui ou non? Tellement c'est immense. Et je pense que l'ennemi peut nous décourager, mais avec une promesse d'une si grande portée. Alors on lit ce texte. N'oubliez pas, ça a été dit dans le cadre d'une fête religieuse, la fête des tabernacles. Et le dernier jour, Jésus est arrivé, alors que justement, le sacrificateur versait de l'eau. Il y a tout un symbole par rapport à la fête des tabernacles que je ne vais pas évoquer ce soir. Mais dans ce contexte-là, regardez ce que dit Jésus. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une explication. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit, E majuscule, donc du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Donc, c'est le début, en vérité. Il y a une vie de l'Esprit qui doit s'échapper des chrétiens, qui doit se manifester. Hier, j'avais une discussion avec une chrétienne qui me parlait, qui me posait des questions par rapport à des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Il me disait, tout un groupe de gens ont été baptisés du Saint-Esprit, mais voilà, les gens, ils continuent à rester jusqu'à 1h du matin sur leur PlayStation, on ne les entend jamais prier dans l'église, ils regardent les mêmes films qu'avant d'être remplis du Saint-Esprit. Elle me dit, mais il faut les accompagner. J'ai dit, écoute-moi bien, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de la présence de Dieu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit? Il est rempli de l'amour de Dieu. Oui ou non? Enfin, c'est pas la peine de tomber dans la grande théologie. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de l'amour et de la présence de Dieu. Et je pense que c'est pas à nous d'accompagner les gens qui sont d'esprit, c'est plutôt aux gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui vont nous accompagner. Croyez-moi, je l'ai vu lorsque je travaillais en boîte de nuit, j'ai parlé à un gars, je suppliais, c'était un gars qui était videur, qui était vraiment, il était sympa, mais il était costaud, il n'était pas toujours commode. Et un soir, je priais, j'avais été baptisé du Saint-Esprit, et je priais, je dis, Seigneur, il faut que je lui parle. Et j'arrive, tout ça, je prépare mes cocktails, tout ça, etc. Bon, c'était une autre vie quand même, vous comprenez. Et il vient me voir, il me dit, est-ce que tu crois en Dieu ? Ah, j'avais prié à la maison pour pouvoir lui parler. Je pensais tout à l'heure, quand Myriam priait pour les fausses, c'est difficile de témoigner. Parce que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours à avoir un évangile. J'ai dit, écoute, je t'expliquerai tout à l'heure. Et je l'ai invité au restaurant, c'était 5 heures du matin. Et voilà, on arrive au restaurant. Et voilà, je vais te parler du Seigneur. Mais avant, je vais rendre grâce. Je rends grâce. Et puis quand j'ai rendu grâce, il a été bouleversé. On a parlé du Seigneur jusqu'à 7 heures du matin. Il est venu à l'église, il s'est converti. Le soir même, il a prié jusqu'à 3-4 heures du matin chez lui. Il a été baptisé du Saint-Esprit. C'était un homme qui avait une vie d'abondance, vraiment d'abondance. Et il a dit à la patronne, c'était le gendre de la patronne, et il a dit, voilà, je quitte mon travail et je vais prendre le premier boulot qui se présente. Il avait un gros salaire. Et la semaine après, il travaillait dans une boîte pour aller nettoyer les toilettes dans les grandes surfaces. Il a fait ça des années. C'est un garçon qui a été baptisé du Saint-Esprit parce qu'il avait compris ce que l'on vient de lire. Il avait soif de Dieu. Mais c'était impressionnant, impressionnant. Et je peux vous assurer que ça a duré, puisque je le connais encore, c'est un ami bien sûr. C'est un garçon qui est toujours baptisé du Saint-Esprit, qui prêche bien sûr. Et je crois que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est plutôt lui qui va nous accompagner que nous, qu'on doit l'accompagner. Aujourd'hui, j'entends de ces trucs dans les églises. Non, écoutez-moi, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est baptisé de la présence de Dieu. Et des fleuves d'eau vive doivent sortir de notre cœur. Alors, je vous le dis, je pourrais vous donner d'autres exemples. Mais quand je vois, je dis, oui, il est baptisé du Saint-Esprit, mais tu comprends, il fume encore parce qu'il en a besoin. Bon, d'accord. Moi, je crois que quand Dieu habite pleinement en nous, je crois que le Seigneur a le pouvoir de nous délivrer. Vous le croyez que, quand même. Enfin, moi, je ne veux pas trop extrapoler, mais aujourd'hui, on a tellement minimisé, qu'en fin de compte, les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, il n'y a aucune différence avec les gens qui ne le sont pas. Le Seigneur est catégorique. Ceux qui vont recevoir l'Esprit, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Alors commençons par le début, parce que cette affaire, elle est sérieuse. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a la part de Dieu qui est extraordinaire, mais il y a notre part à nous. Comment ça commence? Ça commence avec un « si », donc une condition. Dieu ne pousse jamais, vous avez remarqué, c'est tout le temps « si ». Si vous demeurez à moi, si mon peuple s'humilie, etc. Si quelqu'un a soif, alors, quelqu'un a soif, voilà le début. Voilà le début de la vie de l'esprit. Alors, est-ce que vous avez soif? Mais soif de quoi? Parce que je suis persuadé que même si on interpellait des inconvertis et qu'on vous leur disait « est-ce que vous avez soif de bénédiction ?» Qu'est-ce qu'ils vous diraient? Même un pécheur qui vous dit « Mais je ne crois pas en Dieu. » Ou d'accord, mais est-ce que tu veux quand même que Dieu te bénisse? Bon, ben oui, s'il existe, j'ai soif de bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde a soif de bénédiction. Est-ce que quelqu'un parmi nous pourrait dire « Non, moi je n'ai pas soif de paix. Je n'ai pas soif de quiétude. » Tout le monde a soif de paix. Tout le monde a soif de bonté. Tout le monde a soif d'amour de Dieu. Oui ou non? Donc le problème, il est de savoir, mais quelle est la soif que Dieu veut que j'ai? C'est la soif de quoi? La soif de bénédiction? La soif de puissance? Tiens, oui, moi j'aimerais être puissant, j'aimerais faire des choses merveilleuses pour Dieu. Est-ce que c'est bien de vouloir faire des choses merveilleuses pour Dieu? Oui, ça peut être bien, ça peut correspondre vraiment à la volonté de Dieu. Mais je crois que là, nous avons commencé à nous tromper. Si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Qu'est-ce qu'il ajoute? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, ce n'est pas une question de bénédiction, ce n'est pas une question de paix, ce n'est pas une question de puissance, ce n'est pas une question d'amour. Il est certain que cette soif ne peut que aura des conséquences comme celles que je viens de citer, mais c'est de venir à Jésus. Si quelqu'un a soif de Jésus. Et voilà le cœur du problème. Parce qu'il y a des gens qui ont soif, Seigneur, mais ils ont soif de bénédiction, mais ils sont, en plus, ce n'est pas sûr qu'ils vont être bénis. Et il y a des gens qui se disent, mais moi j'ai soif, ça je correspond à ça, je dois être dans ce critère-là, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et le premier verset qui nous vient à l'esprit en préparant un texte comme celui-ci, c'est ce verset de Jésus qui est cité dans les Hébreux, au chapitre 10 ou 9, 10, verset 7. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Voilà exactement ce que ça commence à vouloir dire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Nous sommes tous d'accord pour que des fleuves d'eau vive jaillissent de nos vies. Oui? Tous d'accord. Tous. Mais ne nous imaginons pas que ces fleuves d'eau vive vont venir comme ça, sans prix à payer. Il faut recevoir l'Esprit. Pour recevoir l'Esprit, il faut commencer à se poser la question, est-ce que vraiment je viens pour faire la volonté de Dieu? Pourquoi je viens dans l'Église? Pourquoi je viens? Il y a des gens, ils viennent, je vous assure, ils viennent, parce qu'ils s'imaginent que Dieu est avec eux. Et déjà, écoutez, ça fait 31 ans que je suis pasteur, je crois avoir tout entendu. Quoique des fois, j'ai quand même des surprises. Comme hier, cette personne qui me disait qu'il faut accompagner les gens. Écoutez, quand on est rempli du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont balayées par la présence de Dieu en nous. Bon, je viens pour faire ta volonté. C'est ça que Dieu attend, c'est ça que Dieu regarde. Ce soir, on est venu, je l'ai dit tout à l'heure, pour combattre le bon combat de la foi. On peut être venu pour la communion fraternelle, parce qu'on a besoin de voir un frère, une sœur. Est-ce que ça vous fait plaisir? Moi, quelqu'un me disait dernièrement, ici, il n'était pas de cette église, il me disait, mais moi, quand je vais à l'église pour voir ma fille, parce qu'il n'y a que là où je peux la voir. Bon, peut-être j'aurais fait pareil. Je ne dis pas que... Attention, ce n'est pas un jugement. Il y avait un conflit, etc. C'était assez compliqué. La fille allait à l'église et il me l'a dit plusieurs fois, je vais à l'église parce que je sais que là, je vois ma fille. Bon, tant mieux qu'il voit sa fille à l'église. Mais je pense, vous avez compris ma pensée, je pense qu'on va à l'église et qu'il y a un moment où on dit, mais Seigneur, est-ce que je viens vraiment pour faire ta volonté? Parce que qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je discerne la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut discerner la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut la discerner? Est-ce qu'on peut la comprendre, la volonté de Dieu? Parce que c'est ça, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'est-ce que ça veut? On en parle avec ceux qui veulent prendre le baptême, on explique, mais qu'est-ce que c'est suivre Jésus? Mais je vous assure, je me suis parfois pincé en entendant la raison pour laquelle des gens voulaient prendre le baptême. Peut-être, elle est peut-être là, cette jeune fille. Dimanche, aux instructions sur le baptême, il y avait une jeune fille qui a d'ailleurs très très bien réagi, puisque maintenant elle a 20 ans ou 21 ans. Son père l'a poussée à prendre le baptême, parce que ça lui faisait plaisir. Il dit, ma fille, il faut prendre le baptême, ça me ferait plaisir que tu prennes le baptême. Et cette fille a pris le baptême pour faire plaisir à son père. Elle n'était pas convertie, rien du tout. Ça fait mal au cœur. Je racontais l'histoire qui s'est passée ici à Toulouse il y a une quinzaine d'années. Là, ça, c'est grave, ça c'est rien. Un papa qui a dit à son fils, qui avait 18 ans, « Écoute mon fils, prends le baptême, ça me ferait plaisir que tu prennes le baptême. Si tu prends le baptême, je t'achète une moto. » Ne riez pas parce que la suite est grave. Et bien sûr, le gosse, il y a des gosses qui comprennent vite. Il a pris le baptême. Et un mois après, il s'est tué. Vous êtes au courant? Ouais. Eh bien, voyez quand vous entendez ça. Quand même, ça vous montre combien les gens font n'importe quoi. C'est pas la volonté de Dieu, vous le comprenez bien. Je pense que quand quelqu'un il est né de nouveau, il veut prendre le baptême, il n'a pas besoin de la pression de la famille, de la pression du conjoint, de la pression du pasteur. Quand quelqu'un il est converti, il veut prendre le baptême. Il veut s'engager. C'est comme quand quelqu'un il est vraiment amoureux fou, il veut se marier. C'est pas vrai? Mes frères et soeurs, c'est pas vrai que quand on est amoureux, on a besoin de dire à la personne « je t'aime » oui ou non? Ben, on n'a pas besoin de dire, écoute, ça serait bien que tu te maries, ça fait 12, 18 ans que vous vous fréquentez, ça serait peut-être bien que... Oui, mais je sais... Non, écoutez, je prends cet exemple, mais quand on aime Dieu vraiment, quand on est passé par la repentance, par la conversion et par la nouvelle naissance, on a besoin de s'engager avec le Seigneur. Et je disais l'autre jour aux néophytes qui veulent prendre le baptême, ce pasteur, mais là, ça m'a fait pitié vraiment. Ça m'a fait pitié. Je vous le dis pour qu'on comprenne un peu la volonté de Dieu. Ce pasteur qui disait à un jeune, parce qu'il y avait des années qu'il n'y avait pas eu de baptême, tu sais, ça serait bien que tu prennes le baptême, ça encouragerait l'Église. Alors je sais pas s'il faut rire. C'est nerveux, je vous assure que c'est nerveux. Mais mes frères et sœurs, il faut commencer à venir vraiment à Jésus. L'Église, ça ne veut rien dire être pentecôtiste, vous le savez, je l'ai souvent dit. Ça ne veut rien dire être évangélique, être protestant. Ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, est-ce que vraiment je suis venu à Jésus-Christ? Alors on va prendre deux ou trois versets sur l'important de comprendre et de discerner la volonté de Dieu. Parce que, vous voyez, je viens de vous citer deux ou trois exemples qui sont pathétiques, mais qui vous montrent combien on est loin de la volonté du Seigneur. Alors, le premier, c'est justement comprendre la volonté de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 5, c'est Paul qui le dit, il exhorte les chrétiens, j'ai dit Éphésiens, oui, Éphésiens chapitre 5, c'est une belle épître sur l'Église, et il enseigne tous ces chrétiens, alors après justement à cette vie dans l'Esprit, regardez bien, on va lire à partir du verset 10, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous voyez, c'est écrit. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Elle est exprimée dans les versets qui suivent. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Vous avez vu que Dieu met en parallèle l'homme qui est rempli de vin et celui qui est rempli, en opposition, rempli du Saint-Esprit. Un homme timide qui est ivre, est-ce qu'il perd sa timidité? Oui, c'est impressionnant. Il y a des gens, ils ne parlent pas, mais dès qu'ils sont ivres, je peux vous dire qu'ils chantent. Pas des cantiques, mais ils chantent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, C'est fait exprès. C'est pour vous dire que l'homme qui est sous l'alcool, sous l'emprise de l'alcool, est sous une puissance maléfique, mais il est sous une puissance. Oui ou non? Et il ne peut pas ne pas s'exprimer. Moi, j'ai vu des gens qui... Je suis bien placé. Quand j'étais en boîte de nuit, j'ai vu de ces trucs, des gens qui étaient là, puis après, une fois qu'ils étaient sous, ils sautaient, ils dansaient, ils s'exprimaient. Et je sais que quand j'ai étudié ce texte, j'ai compris que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas ne pas exprimer ses fleuves d'eau vive. Il y a quelque chose qui sort de son cœur. Mais il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu. Voyez, entretenez-vous. Qu'est-ce qu'il est demandé pour être rempli du Saint-Esprit ? Entretenez-vous par des psaumes. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez vous entretenez par des psaumes ou vous écoutez de la musique païenne? Vous aimez la musique païenne? Ah, moi j'aime, comme un chrétien me dit, ah, moi j'aime chanter. J'aime chanter Serge Lama. Je suis malade. Et puis j'ai écouté, moi je préfère chanter que je suis guéri. Vous voyez? Mais ça vous fait rire. Mais je l'ai entendu ça. Vous riez? Je l'ai entendu. Alors je ne dis pas que bon... On a le droit de se détendre, mais quand même, je crois que, franchement, bon, chanter « Je suis malade », est-ce que vous me comprenez un peu? Ça fait peine quand même. Moi, je crois quand même, il vaut mieux chanter « Il m'a guéri, je suis guéri ». Non? Je ne sais pas quand même. Et, enfin, moi, je vous assure, si je vous faisais un petit peu la rétrospective de ce que j'ai entendu depuis 31 ans, vous diriez « Bon, je le comprends un peu ». Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, parce qu'il y a des cantiques qui ne le sont pas. Et je dis, mon meneur de chant, veillez à cela, je ne veux pas m'entendre des chansonnettes dans l'église, moi je crois qu'il est bon qu'on s'entretienne par des cantiques spirituels. Oui ou non? C'est important. Après, que ces cantiques soient modernes ou anciennes, ce n'est pas grave, mais qu'ils soient spirituels. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il va s'appliquer à faire en sorte de s'entretenir par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je crois que dans une église, on doit avoir la même vision, on doit être soumis les uns aux autres. Dans une église, imaginez que dans une église, Monsieur de Dieu, il soit pour une chose et que moi je sois à l'opposé. Est-ce que c'est ça la vie de l'Esprit ? Dans une église, on est ensemble, on est unis parce qu'il y a le lien de l'Esprit et on ne peut pas ne pas être unis parce qu'il y a le lien de l'Esprit qui demeure. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La vie de l'Esprit, c'est quelque chose d'important. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si dans une église, on se tire tout le temps dans les pattes, comme on dit, si on est tout le temps en train de se disputer, moi je me rappelle un jour, il y a un chrétien qui m'avait dit, Monsieur Gou, dans mon église, ils se sont disputés, ils avaient changé les rideaux. Il y avait des fenêtres, bon, ici ça risque qu'il n'y en a pas. Ils avaient changé les rideaux, alors il y en avait un qui les voulait bleus, l'autre il voulait vert cacadois, etc. Non mais. Ils s'étaient disputés. Pour des rideaux. Nous, on ne s'en occupe même pas des rideaux. On m'a demandé ça à une sœur qui aura certainement un peu plus de goût que nous pour s'occuper du choix des rideaux. Mais c'est pour vous dire, quand on en arrive à se disputer pour des rideaux, ça vous prouve l'unité qu'il y a, le lien de l'esprit qu'il y a. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rendez grâce continuellement. Est-ce que vous rendez grâce au Seigneur? Est-ce que vous rendez grâce parce qu'il faut rendre grâce à table à midi? Ou est-ce que votre cœur déborde de reconnaissance pour tout? Est-ce que vous rendez grâce au Seigneur? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas ne pas rendre grâce. Il est continuellement en train de rendre grâce. Ce sont des petites choses qui nous permettent de comprendre la volonté du Seigneur. Après, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre la volonté du Seigneur. Ça me brise le cœur. Ça nous prouve combien cette soif n'existe pas. Et que peut-être, c'est la conclusion, mais c'est peut-être... ce qu'il faudrait commencer à demander au Seigneur, mais Seigneur, s'il te plaît, suscite la soif dans mon cœur. Parce qu'après tout, on ne va pas jouer les hypocrites. Si on a soif, béni soit Dieu. Si on n'a pas soif, on peut dire, Seigneur, suscite la soif. Oui ou non? On peut en faire une affaire sérieuse. Est-ce que vous croyez que c'est une prière qui peut plaire à Dieu? Mais Seigneur, c'est vrai, j'ai soif de bénédiction, j'ai soif d'amour, je veux ceci, je veux cela, j'ai soif de bénédiction, j'aimerais que tu fasses ceci, j'aimerais que tu fasses cela. Mais est-ce que j'ai soif de toi, d'être avec toi? Il est certain que beaucoup de gens ne comprendront pas la volonté de Dieu et ne pourront jamais recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils aiment trop le monde. Et la Bible dit que on va le lire ce verset, on va le lire parce que je pense que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas immergés dans cette vie de l'Esprit. Dans l'Évangile de Jean, Moi, j'avais prié pour que le Seigneur me montre, il y a peut-être 10 ans en arrière, et je me disais, mais Seigneur, pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit dans l'Église, dans les Églises? Pourquoi? En vérité, il y a 3 choses. Il y a cette soif qui n'existe pas. Je ne parle pas de la soif de bénédiction, la soif d'être avec Jésus. Elle n'y est pas. On veut bien aller à l'Église, mais on ne veut pas obéir à Jésus. Et dans Jean au chapitre 14, au verset 17, moi je vous assure, ça a été une vraie révélation. J'étais ici à Saint-Anne, donc il y avait déjà, vous voyez, plus de 15 ans que j'étais pasteur. Jean chapitre 14, verset 17, on va lire le verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et au verset 17, regardez, virgule. « L'Esprit... » Donc E majuscule, je vous le dis pour les nouveaux, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et la Bible dit que celui qui aime le monde, qu'est-ce qu'elle dit? Vous connaissez la suite? L'amour du Père n'est point en lui. C'est dans l'épître de Jean. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et je vous assure, moi ça m'a soulagé parce que j'ai compris qu'il peut ne pas y avoir la soif. Il y a trois problèmes en vérité. La soif. Je répète parce qu'il faut être très précis. Je ne parle pas de soif de paix, de bénédiction, d'amour, etc. Je parle de soif d'être avec le Seigneur Jésus. Je ne parle pas de soif pendant les réunions, dire voilà, on sait on va à l'Église, donc on sait ce qu'on va entendre. C'est après l'Église. Ce soir, demain. Le lundi matin, peut-être que le lundi matin, on peut être plus dans la présence de Dieu que le dimanche matin au culte. Est-ce que c'est possible, ça? Ben oui, bien sûr que c'est possible. Il n'y a pas de soif, et je pense qu'on peut susciter la soif. Moi, je vous assure, je le fais, et pourtant j'ai soif de Dieu, je ne vais pas vous mentir. Mais je peux vous dire, Seigneur, que ma soif soit encore plus grande. J'avais lu dans un commentaire biblique qu'en Israël, lorsqu'un bébé naissait, vous savez qu'un bébé, lorsqu'il naît, de suite, on le met au sein de la maman. Et il y a des bébés qui ne prennent pas le sein. Donc, ils sont en danger. Ils ne veulent pas se nourrir. Et j'avais lu que les femmes juives, elles prenaient du jus de figue, du sirop de figue, la figue carrément. Et sur le mamelon, elles pressaient de la figue. Ça mettait du sucre. Et ça fait que le bébé, lui, le sucre, ça suscitait la soif. Et j'ai l'impression qu'on pourrait demander au Seigneur du sucre. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur, suscite la soif, Seigneur. Je veux vraiment boire à l'entrée. Je veux être rassasié. Quand je lis le psaume 23, il restaure mon âme. Je ne veux pas que ce soit juste un beau psaume. Je voudrais vivre cette affaire. Il restaure mon âme. Vous connaissez le psaume 23 ? Il restaure mon âme. Il me rassasie. Je suis en train de prendre avec moi tous les textes. Parce que vous savez, mardi dernier, je vous avais parlé de ce texte où Jésus dit « Mais je souperai avec lui et lui avec moi ». Ça fait que je suis en train de prendre tous les textes où justement il nous est dit qu'il nous rassasiera de mets succulents et gras, qu'il nous donnera le pays où coule le lait et le miel. Il y a des centaines de versets qui expriment le fait que l'on peut être vraiment repu, rassasié. Et je crois vraiment, mes frères et sœurs, que pour plusieurs parmi nous, en tous les cas, si le Seigneur m'inspire, c'est évident, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, suscite la soif. Je ne veux pas être un hypocrite, je ne veux pas jouer la comédie, je ne vais pas faire semblant. Voilà, Seigneur, je n'ai pas soif de toi, bien sûr je veux être sauvé, je veux aller au ciel, je veux bien me servir dans l'Église, je veux bien prêcher de temps en temps, etc. Non, non, non. Seigneur, suscite la soif. Celui qui est ami du monde... On le lit ce texte dans Jacques chapitre 4, parce que je pense que beaucoup de chrétiens aiment le monde. Ça vous choque ce que je vous dis? Répondez-moi mes frères et sœurs. Est-ce que ça vous choque? Il y a beaucoup de chrétiens, ils aiment le monde. Ils aiment le monde plus que Dieu. Dans les rois, moi je sais qu'il y a un verset qui m'a beaucoup étonné. Les rois ou... Ouais, je crois que c'est les rois. Quand il est dit, ils aimaient l'Éternel et ils servaient les Baals. Moi ça va. Ils aimaient l'Éternel et ils aimaient les idoles. Ça ne fait pas nos cœurs en même temps. Ils servaient l'Éternel et ils servaient en même temps les Astartés. Vous voyez, des divinités païennes. Voyez ça. Et voilà, et je crois que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette vie de l'esprit. Ils aiment Dieu, ça c'est indéniable, ils aiment Dieu, mais ils aiment le monde. Et quand même, quand vous lisez chapitre 4 de Jacques, où il y a tout un enseignement sur la prière, et le combat que l'on peut avoir à l'intérieur, ça vous est déjà arrivé d'avoir des combats à l'intérieur? On va le lire, Jacques 4, verset 1er. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous savez, quand on veut avoir raison. Il y avait un frère qui m'appelait tout à l'heure de Lille et qui me posait des questions par rapport à des opinions. Je lui ai dit, mais ne discutez pas les opinions. En plus, c'est écrit. Ça ne sert à rien de discuter les opinions. Vous voyez, quand on en est là, ça vaut le bas, hein, comme on dit. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Puis il se reprend, il corrige le tir. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset que l'on vient de lire dans Jean chapitre 7 est un verset qui pourrait être expliqué. Vous voyez, on demande, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la joie. C'est sûr que si je vis dans le péché, Dieu va pas me donner la paix. C'est pas, il faut pas rêver. Je comprends pas. Hier, j'ai reçu un mail. Il va falloir que j'y réponde. C'est un truc terrible. Mais le gars, je peux lui dire, mais il faut pas vivre dans le péché. Il me parle pas de péché. Mais la façon dont il m'exprime ce qu'il pense, je sais très bien que le gars il vit dans le péché. Et il faut pas rêver. Si on vit dans le péché, il faut pas croire que Dieu va nous donner la paix. Il faut être sérieux. Voyez. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. L'adultère, ce n'est pas que le fait de tromper son conjoint. Il y a l'adultère spirituel, qui est le fait de tromper Dieu. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et regardez en plus la délicatesse avec laquelle le Seigneur continue. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Regardez bien cette sollicitude. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Quand on voit la sévérité d'un coup, et puis tout d'un coup la sollicitude, c'est pour qu'on réagisse. Mais c'est vrai, Seigneur, tu as de la tendresse, de la sollicitude, tu parles d'une grâce excellente. Mais une chose est claire, si on aime le monde, nous sommes ennemis de Dieu. Alors c'est sûr qu'on peut dire, Seigneur, mais des fleuves d'eau vive. Mais oui, si le Seigneur nous dit que nous sommes ses ennemis, ça ne va pas aller. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour ça qu'il faut commencer par le début. Est-ce que je suis un ennemi de Dieu à cause du fait que j'aime le monde, même si j'aime Dieu? Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas la volonté de Dieu. Je termine avec ce verset qui nous parle de la volonté de Dieu. Verset que j'ai souvent utilisé, c'est dans les Romains au chapitre 12. Dans Romains au chapitre 12, c'est l'apôtre Paul, après une longue, longue exhortation sur la vie de l'esprit, il explique comment discerner la volonté de Dieu. Alors franchement, est-ce que quelqu'un ici peut dire dans son cœur, ne me dites pas à haute voix, oui, je veux discerner la volonté de Dieu? Il y a des gens qui aimeraient vraiment discerner la volonté de Dieu. Eh bien, lisons ce qu'il faut faire, ou relisons ce qu'il faut faire. Romains chapitre 12, verset 1er. En plus que ça correspond à un besoin. Vous avez vu comment ça commence? Il y a l'apôtre Paul qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Ça montre le fait qu'on doit avoir de la compassion pour les âmes perdues. Ça va jouer sur le salut des âmes, cette affaire. « Je vous exhorte par les compassions de Dieu. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À offrir vos corps. Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui sont très spirituels. « Ah, mais moi, mon âme appartient à Dieu. » Il y en a les Nicolaïtes, vous savez, dans l'Apocalypse, là. C'est cette affaire-là. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais il y en a parmi nous, dans le royaume de Dieu. Moi, vous savez, ce qui est important, c'est que je sois spirituel. Mon esprit appartient à Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Mais mon corps, c'est charnel. Il fait ce qu'il veut, mon corps. Si mon corps trompe ma femme, bon, c'est pas grave, c'est que mon corps. Je l'ai entendu, ça. Il y a des gens, ils s'imaginent que la spiritualité, c'est une affaire de l'âme et de l'esprit. La spiritualité, ce n'est pas une affaire de l'âme et de l'esprit. La spiritualité, c'est une affaire du corps, de l'âme et de l'esprit. Romains chapitre 12. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain. J'ai lu dans une autre version il y a quelques jours, acceptable. Agréable à Dieu, c'est quelque chose que Dieu accepte. Si ce n'est pas sain, si ce n'est pas offert, Dieu ne l'accepte pas. C'est pas compliqué. On se demande, mais pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas accepté? Pourquoi tu ne m'as pas encore utilisé? Eh bien, parce que si on offre à Dieu quelque chose qui n'est pas sain, Dieu ne l'accepte pas. Vous comprenez un peu mieux le départ de la vie de l'esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. On ne vient pas à Dieu n'importe comment. Si, on peut venir dans le péché, mais une fois qu'on a demandé pardon à Dieu pour le péché, on accepte ses conditions. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je rappelle que le culte, ce n'est pas le dimanche matin de 9h à 11h. Le culte, c'est une vie qui est consacrée à Dieu. Oh, on a eu un bon culte. Oh, qu'on a eu un bon culte, monsieur Hugo, c'était formidable. Mais, bon, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais est-ce que Dieu peut dire la même chose de nous? Parce que le culte, ce n'est pas 2 heures qu'on a bien gérées. Le culte, c'est une vie qui est consacrée à Dieu. Le culte, c'est tout à l'heure, là, quand je vais arriver à la maison. Est-ce que je vais être en train de pianoter sur mon ordi, en train de regarder des saletés? Là, je peux vous dire que le culte, il n'est pas agréable à Dieu. Le culte, c'est une vie. Nous, parce qu'on appelle nos réunions, à l'Église catholique, il dit la messe, ici, on dit le culte, mais en vérité, ce sont des réunions. Le culte, c'est une vie qui est consacrée au Seigneur. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point pour discerner la volonté de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, on est dans ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et regardez bien ce qui se passe, si ces conditions sont respectées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, voyez, comprendre la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ne discernent pas la volonté de Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui vivaient dans le concubinage depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui ne savaient pas qu'ils étaient dans le péché. Je vous avoue que ça me dépasse. Hein. Je vous avoue que je serais presque à la limite de tomber dans le jugement, tellement c'est flagrant. Je crois que lorsqu'on offre sa vie à Dieu, Dieu nous donne du discernement. Lorsque l'on comprend les préceptes, on comprend la volonté de Dieu. Et lorsque l'on est sérieux, on s'applique à comprendre, mais tiens, pourquoi il y a une promesse aussi merveilleuse de fleuve d'eau vive, mais qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit le Seigneur. Et quand on vient à Jésus, on ne prend pas le baptême n'importe comment. Quand on vient à Jésus, on n'obéit pas n'importe comment, on ne fait pas les choses n'importe comment. C'est sérieux. Est-ce que c'est sérieux l'Église du Seigneur? Est-ce que c'est sérieux pour vous l'Église? Mais il y en a 3 qui sont d'accord. Eh bien c'est bien, c'est un début. Non mais sérieusement, est-ce que c'est important l'Église du Seigneur? Vous vous rendez compte, c'est le seul moyen que Dieu a pour que des hommes rentrent dans l'éternité. Une Église digne de ce nom, qui commence à dire, eh bien moi je veux vraiment avoir soif. Tu vois ces choses mondaines, eh bien je vais m'en débarrasser. Est-ce que Dieu va vous aider? Oui, considérez-vous comme mort au péché et vous allez voir que bien des choses, peut-être que vous avez envie de faire, vous ne les ferez plus. Oui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, on n'a pas parlé de cette condition après, et qu'il boive. Qu'il boive, c'est ce que vous avez ou pas fait. Maintenant, pendant la demi-heure où on vient, ou 3 quarts d'heure qu'on vient de partager la parole, est-ce que vous avez bu ces choses? Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous les acceptez doctrinalement? Est-ce que vous dites, oui, ce que M. Goua dit, bon, mais de toute façon, c'est la parole de Dieu, ça tient debout, mais ça ne changera rien? Ou est-ce que tu dis, je veux l'expérimenter? Parce que je crois que véritablement, les choses de Dieu, il ne faut pas les croire, il faut les expérimenter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, cette affaire-là, ça me préoccupe? De ma vie, il n'y a pas beaucoup de choses bonnes qui sortent. Mais soyons honnêtes. Vous savez, moi j'ai tout le temps vu Dieu bénir les gens honnêtes. De ma vie, mais qu'est-ce qui sort de ma vie? Qu'est-ce qui jaillit de mon sein, de mon être? C'est l'irritation? C'est la colère? Ou c'est la paix? Bon, si c'est la paix, c'est bon. Mais si ce n'est pas des choses bonnes, eh bien, Seigneur, suscite la soif de ta présence. On le chante. J'ai soif de ta présence. Vous aimez le chanter, ce cantique? Eh bien, on va le chanter, mettez-le. On va terminer en chantant ce cantique. J'ai soif de ta présence.